Bonsoir à toutes et à tous, c'est Du Grain à Moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. 28, c'est le nombre d'accords de libre-échange en préparation du côté de l'Union européenne. L'inflation des négociations a certes été renforcée par le virage protectionniste de l'Amérique de Donald Trump, mais il est bien plus ancien, les discussions en la matière prennent des années. Par exemple, cela fait 4 ans qu'on discute du JEFTA, le traité de libre-échange UE-Japon, dont on a moins entendu parler que le TAFTA ou le CETA, et pour lequel on a un accord prévu d'être signé, un accord politique qui doit être signé demain. Une aubaine, alors que le G20 doit se réunir vendredi et samedi à Hambourg, c'est un signe fort envoyé par le camp du libre-échange au camp du protectionnisme. C'est aussi un nouveau signe de l'évolution de l'organisation du commerce mondial. Fini les grandes approches multilatérales, place au bilatéralisme. La nature des échanges a changé, des acteurs non étatiques très puissants ont émergé. Les accords épousent ces changements et ne se limitent plus à faire tomber les droits de douane. Ils vont bien plus loin et ont tendance d'ailleurs à hériter les opinions publiques. Alors face aux remises en cause, peut-on encore sauver le libre-échange? C'est la question du grain à moudre d'été à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Et pour évoquer tous ces sujets autour de la table ce soir, trois invités. Mathilde Dupré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en charge du programme Commerce à l'Institut Veblen. Alors l'Institut Veblen, c'est un think tank qui vise à réformer l'économie et notamment à réfléchir à la transition écologique. En face de vous, Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur d'histoire de l'économie notamment, et vous enseignez à l'ESCP Europe, une école parisienne. Corinne Vatt. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste en commerce international à l'Institut Friedland, qui est un autre think tank, qui là est le think tank de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France. Alors, je le disais, on a pensé cette émission d'abord à l'occasion du G20 d'Hambourg qui commencera ce week-end. Entre-temps, on a eu cette information sur le traité entre l'Union européenne et le Japon. Malgré tout, on avait un petit peu des signes, notamment à travers un discours d'engagement. La Merkel, fin juin, réaffirmant la nécessité du libre-échange en opposition aux États-Unis de Donald Trump, dont on se souvient qu'ils avaient, lors de la dernière réunion du G20, un petit peu remis en cause cette idée. C'est toujours présent dans les discours politiques. Alors, est-ce qu'on assiste véritablement, Jean-Marc Daniel, aujourd'hui, selon vous, à une forme de retour du protectionnisme, en tout cas, à une forme de fin de consensus sur le libre-échange?
Non, je ne crois pas vraiment. Je pense que, contrairement à ce qu'on raconte sur les républicains américains, le Parti républicain a toujours été historiquement et traditionnellement protectionniste. C'est-à-dire, dès sa fondation, Abraham Lincoln, dans la partie économique de sa gestion des États-Unis, était profondément protectionniste. Et puis, tous les républicains de la fin du 19e siècle étaient protectionnistes. Et Donald Trump s'inscrit dans cette logique parce que le monde conservateur américain est protectionniste. Le protectionnisme est identifié au conservatisme. D'ailleurs, les Chinois, quand ils font un plaidoyer en faveur du libre-échange, rappellent que Karl Marx était pour le libre-échange, que Karl Marx a écrit un discours sur le libre-échange en disant que le protectionnisme est la forme la plus simple qu'a inventée la bourgeoisie pour abaisser le pouvoir d'achat des travailleurs. Et donc, les positions sont des positions historiquement assez ciblées. Ce qui avait été original dans la position des États-Unis, c'est que les démocrates, en revanche, sont historiquement libre-échangistes parce que les démocrates ont construit leur réémergence politique à partir du sud des États-Unis, qui est assez historiquement, là aussi traditionnellement, libre-échangiste. Donc, que ce soit l'administration Kennedy qui avait lancé les grandes négociations des années 60, le Kennedy Round, jusqu'à Clinton ou Obama, c'était des gens qui étaient libre-échangistes. Il n'y a pas donc de remise en cause, il y a une administration républicaine, et assez souvent quand les républicains sont au pouvoir, contrairement à l'image de Marc Colonna, c'est-à-dire on a une idée, c'est le libre-échange, c'est le monde des affaires, c'est le libéralisme débridé, le protectionnisme, c'est la défense des travailleurs, c'est historiquement faux, et donc chaque fois qu'on a des républicains au pouvoir, on a plutôt un retour d'une administration américaine hostile au libre-échange.
Mais les États-Unis étant la première puissance économique mondiale, de fait, avec un Donald Trump républicain, ça signifie qu'on est quand même dans une période moins favorable, en tout cas, au libre-échange, Corinne Vatkar.
Je rejoins plutôt Jean-Marc Daniel pour dire qu'on est dans un environnement assez nuancé. D'un côté, c'est vrai, on a un climat anti-globalisation qu'attestent les oppositions aux accords de libre-échange, qu'attestent aussi les entreprises qui vont dans des pays et qui constatent qu'il y a une moindre ouverture qu'auparavant. On a aussi des accords, comme vous l'avez dit, de grands accords qui sont vilipendés, menacés, enterrés. Et puis, il y a un discours protectionniste qui est plus facile à délivrer aujourd'hui que dans le passé. En tout cas, certains décideurs politiques s'y autorisent. Mais dans le même temps, si on peut pas mal de citer quelques chiffres, le rapport que l'OMC et l'OCDE et la CNUSED rendent pour le G20 indique que par rapport à la période post-crise, donc après 2008-2009, on avait des mesures protectionnistes qui étaient plus nombreuses en rythme mensuel qu'aujourd'hui. On était à 9 mesures par mois, aujourd'hui on est à 5 à 6 mesures par mois. Donc on a au contraire peut-être une baisse de protectionnisme en termes de mesures. Surprise. On a aussi des interdépendances très fortes entre les États. Ça s'appelle la globalisation depuis des décennies et ça ne se change pas du jour au lendemain. Et puis on a aussi un discours qui demande de la protection, qui trouve un peu d'écho, mais qui n'est pas forcément un discours anti-global, anti-libre-échangiste, qu'il s'agisse du Brexit, qu'il s'agisse du président Trump ou qu'il s'agisse du président Macron.
Tout de même, vous avez cité des chiffres, j'en cite aussi, ce qui montre que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a un rapport de la Commission européenne qui a été rendu le 26 juin dernier, qui indiquait qu'il y a une augmentation de 10% en 2016 des obstacles opposés aux entreprises européennes. Alors peut-être que ça augmente moins vite qu'avant, mais ça reste en tout cas préoccupant pour la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, qui a affirmé qu'il fallait se battre au prochain G20 d'Hambourg, qu'il fallait exhorter les dirigeants à passer de la parole aux actes, à s'opposer au protectionnisme. Mathilde Dupré, quel regard vous portez-vous sur la situation ?
Je pense que la situation, elle est un petit peu paradoxale parce qu'on est en train de traverser une vraie crise de la politique commerciale internationale telle qu'elle est menée actuellement par l'Union européenne et par ses principaux partenaires économiques. Donc on voit bien aux États-Unis une partie du débat électoral et de la victoire électorale de Donald Trump s'est fait sur cette question de des perdants de la mondialisation, d'un insuffisant accompagnement des gens qui ont vu leur situation dégradée ou en tout cas les inégalités augmenter du fait de certaines politiques commerciales notamment. Et dans l'Union européenne, on voit bien qu'on est dans une sorte de fuite en avant actuellement. Vous l'avez dit, il y a 28 négociations qui sont sur la table. Et la politique qui est menée par la Commission européenne, elle est très questionnée par des ONG, par des économistes, mais aussi par des magistrats maintenant, par des fédérations de PME dans certains pays. Et on voit qu'elle est plus adaptée pour répondre aux grands défis sociaux, environnementaux auxquels notre humanité est confrontée. Et donc ça devrait inviter la Commission à redéfinir sa politique commerciale. Et malheureusement, elle fait la sourde oreille et elle cherche à négocier de plus en plus de traiter les uns après les autres sans aucune transparence. Et donc elle risque, si elle continue d'ailleurs, de précipiter l'Union européenne dans une sorte de spirale de désintégration et puis de faire le lit des mouvements d'extrême droite et populistes dans l'Union européenne.
C'est intéressant ce que dit Mathilde Dupré, parce qu'en fait ça amène à redéfinir peut-être un petit peu ce qu'on entend par libre-échange et protectionnisme aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut s'y risquer, parce que vous avez fait l'histoire, vous êtes remonté jusqu'à Lincoln, Jean-Marc Daniel. Mais enfin, c'est pas la même chose de s'opposer à l'importation du thé anglais aux États-Unis qu'aujourd'hui, dans une mondialisation où les échanges, c'est vrai, sont renforcés, où il y a une concurrence, où on a vu qu'il y a eu une réduction des inégalités entre les pays, mais où les inégalités augmentent à l'intérieur des pays. Bref, on est face à des défis qui sont très différents. Et donc, quand on veut se protéger, c'est pas forcément qu'on est protectionniste dans le sens ancien du terme, Jean-Marc
Oui,
Daniel.
Oui, je ferai trois remarques par rapport à ça. Par rapport à Lincoln, il y a un événement incontestablement qui est intervenu, ou même par rapport à Kennedy, c'est la disparition des monnaies en change fixe. C'est-à-dire que le droit de douane perd son sens, puisque le droit de douane modifiait la hiérarchie des prix entre les prix extérieurs et les prix intérieurs d'une économie. Or, maintenant, il suffit que le taux de change décroche très brutalement pour que cette modification soit contrecarrée. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque l'administration Bush dans les années 2000 a mis des droits sur l'acier, la chute de l'euro au même moment compensait immédiatement les droits de douane que mettait en place l'administration Bush. Donc ça s'est traduit par une opération qui était une opération d'augmentation des recettes fiscales de l'État américain, puisque l'État américain percevait les droits de douane, mais pas par une modification des conditions concurrentielles sur le marché de l'acier américain.
Qu'on comprenne bien, ce que vous voulez dire, c'est que jouer aujourd'hui sur les droits de douane, ça ne sert plus à rien ?
Ça ne sert plus à rien, parce que très rapidement, c'est contrebalancé par l'évolution du taux de change. Par exemple, on parle de la négociation avec le Japon. Le Japon affiche en ce moment une intention, c'est que le dollar doit valoir 130 yens. Donc le dollar est aux alentours de un peu en dessous de 100 yens. On arrive. Et donc un des objectifs, c'est de faire baisser le taux de change du yen. À partir de ce moment-là, si on fait baisser le taux de change du yen, les prix automatiquement des produits japonais vont baisser. Et donc les droits de douane, si on met en place des droits de douane, il faudra en permanence qu'ils courent après cette évolution. Donc le droit de douane en tant qu'outil a disparu. La deuxième chose, c'est que dans les débats sur le libre-échange et le protectionnisme, et on le voit aux États-Unis, les gens voient ce qui souffre, entre guillemets, de la mondialisation, c'est-à-dire ce dont les emplois disparaissent. D'ailleurs, on accuse le libre-échange de la disparition de ces emplois, alors que ces emplois disparaissent pour l'essentiel dans le secteur industriel par robotisation et amélioration des procédés de production. C'est-à-dire que l'industrie automobile américaine que prétend protéger M. Trump en disant il faut que Ford fasse revenir les usines du Mexique.
Donc la délocalisation, selon vous, n'est pas...
Ford a dit, écoutez, on remettra des usines aux États-Unis, mais ces usines, ce seront des usines totalement robotisées. Donc le nombre d'emplois que l'on va recréer sera extrêmement faible. En revanche, le protectionnisme a comme conséquence de faire monter les prix, notamment des consommations les plus défavorisées. Un des grands arguments de Nicolas Gregory Mankiw, qui est un des économistes reconnus aux États-Unis, c'est de dire, en fait, si vous mettez des droits de douane sur les produits chinois, vous allez pénaliser l'électorat de M. Bush. Il dit, moi je vis par exemple en produits américains et puis j'ai une BMW, je bois du Chablis, je suis habillé par Hugo Boss, donc je vis en euros et en dollars. Et ceux qui vivent en produits américains, ce sont les champs que l'on prétend défendre et que l'on prétend protéger. Et puis le troisième élément, c'est que un produit maintenant, il est très difficile de déterminer quelle est la nationalité d'un produit. C'est-à-dire que tous les produits...
Le fameux exemple du smartphone.
Le smartphone, le made in devient absolument impossible à définir et à
extrêmement... Les 80 composants du smartphone sont tous faits dans un autre pays et assemblés.
C'est un concept d'ailleurs qui avait été inventé comme un concept punitif, qui est maintenant censé être un concept de protection et qui est absolument impossible à gérer de façon pratique.
Mais j'entends bien ce que vous dites, Jean-Marc Daniel, sauf que aujourd'hui, quand on regarde les accords tels qu'ils sont passés, les accords de libre-échange, ils ne parlent pas simplement sur les droits de douane et c'est bien autre chose qui est en jeu, Mathilde Dupré.
En effet, aujourd'hui, les négociations dans ces méga accords de commerce entre grandes puissances, elles portent essentiellement sur les barrières non tarifaires, puisque les économies sont déjà relativement intégrées, à part quelques pics qui peuvent être encore négociés. Et donc, elles portent en réalité sur des normes de protection des consommateurs, des travailleurs, de l'environnement. Dans le cas des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis, c'était 80% des effets escomptés de cet accord qui devait venir de l'alignement des réglementations et des normes. Mais on voit bien que quand on parle de réglementation technique sur les caractéristiques de certains composants d'une voiture ou autre, il y a une certaine logique à se mettre d'accord et que c'est bénéfique évidemment pour tout le monde et ça ouvre des plus grands marchés à tous les constructeurs. Par contre, on arrive quand même, dès qu'on touche à ce type de domaine, à des préférences collectives et des règles qui touchent absolument toutes les politiques publiques, et là qui deviennent extrêmement sensibles. Et ce que je voulais rajouter, c'est que le commerce, il n'est pas bon ou mauvais en soi. La question aujourd'hui qu'on doit se poser pour redéfinir la politique commerciale, c'est qu'est-ce qu'il est bon d'échanger et selon quelles règles. Et quand on négocie un accord avec le Canada, qui est un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole non conventionnel issu de sable bitumineux, qui ont des caractéristiques environnementales absolument catastrophiques et encore plus graves en termes d'émissions de gaz à effet de serre que des énergies fossiles classiques, eh bien, peut-être qu'on ne devrait pas chercher à privilégier les investissements, la production et les exportations de ce type de carburant. Or, c'est ce qu'on a fait, et c'est ça aujourd'hui qui pose problème.
Avec le CETA, donc. Pour continuer dans cette idée, Corinne Vatkar, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les moyens pour faire baisser les coûts, en quelque sorte, de ce qu'on s'échange, des biens qu'on s'échange, ça passe moins par négocier des droits de douane à baisser, même si avec le Japon, c'est un peu particulier, puisqu'il gardait des droits de douane très très élevés. Mais voilà, dans l'ensemble des négociations telles qu'elles se passent, dans les nouveaux accords qu'on passe, c'est moins les droits de douane que aller négocier des éléments de normes, de standards avec les autres pays.
Oui, c'est vrai en partie, mais en même temps, il n'y a pas que les droits de douane dans les accords traditionnels, les accords de libre-échange traditionnels. Il y a aussi ce qu'on appelle les obstacles techniques aux échanges, les difficultés de passage des biens aux frontières, ce qu'on appelle la facilitation du commerce, la dématérialisation des documents d'accompagnement des marchandises, tout ce qui est règles sanitaires et phytosanitaires. Je ne parle même pas des produits agricoles, où il y a encore effectivement des barrières élevées. Il y a quand même des attentes et également aussi des règles d'origine. Avec le développement de ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiale, à savoir que vous pouvez produire un bien en sollicitant différents pays pour les intrants qu'il a et puis l'assembler dans un autre pays. Tout ça génère un besoin d'harmonisation des règles d'origine, de facilitation des échanges. Et donc, il y a aussi un travail sur cette dimension-là avant même d'en arriver à la phase de convergence réglementaire.
Non, mais justement, tout le débat, il est là. Est-ce que l'harmonisation, elle se fait par le bas ou par le haut? Et j'ai le sentiment que ce qui est reproché, Mathilde Dupré, en ce moment aux négociations telles qu'elles se passent, qu'on a tendance, notamment avec les États-Unis, le Canada, à harmoniser peut-être par le bas, en tout cas dans un souhait plus écologique, tel que vous l'avez exprimé tout à l'heure.
La difficulté, c'est que sous la novlangue commerciale de barrières techniques, sanitaires, phytosanitaires, etc., il y a des vraies mesures de protection qui ont été adoptées après délibération démocratique. Quand on regarde le rapport annuel que les États-Unis publient sur les barrières au commerce de leurs partenaires commerciaux, on peut voir que l'interdiction du bisphénol A dans les biberons pour enfants ou les règles européennes en matière de protection des données personnelles dans le numérique ou tout ce qui est OGM ou hormones de croissance, ça fait partie des règles qui sont identifiées par les États-Unis comme des barrières commerciales que l'Union européenne poserait non pas pour protéger de façon légitime ses consommateurs, ses travailleurs, etc., mais pour empêcher certains produits américains de rentrer sur le marché. Et donc c'est quand même une vision extrêmement biaisée aujourd'hui de qu'est-ce que sont les régulations et les normes et les standards de protection.
Jean-Marc Daniel, on voit que l'Union européenne est centrale aujourd'hui dans cette, on va dire, dans cet activisme libre-échangiste. Est-ce que, comme l'a fait remarquer le président Emmanuel Macron, il n'y a pas quand même parfois une certaine naïveté dans cette façon de s'ouvrir au monde? Et finalement, est-ce que toute protection emmène, encore une fois, au protectionnisme?
Alors, il y a un discours assez traditionnel qui consiste à dire que l'Europe est l'idiot du village mondial. C'était une formule qui était chère à Hubert Védrine et qu'on a tendance à reprendre. Or, si on était l'idiot du village mondial, nous serions dans une situation à être totalement dépendants des autres en termes de commerce. Or, nous sommes plutôt favorablement bénéficiaires du commerce mondial. C'est-à-dire que la zone euro est un excédent extérieur. Le principal excédent extérieur mondial, c'est l'Allemagne. Et donc, il y a une capacité de l'Europe à bénéficier et à jouer à plein le jeu du commerce international et à bénéficier du commerce international. Ensuite, l'Europe est assez naturellement libre-échangiste parce que elle ne subit pas les conséquences du protectionnisme justement par ses choix politiques. Je vais prendre deux exemples clairs. On parle du Japon. Le Japon est en train de changer sa doctrine sur le libre-échange et le protectionnisme à cause de la crise des pommes de terre. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire.
Pas vraiment.
Mais les pommes de terre sont interdites d'importation au Japon. La conséquence, c'est comme il y a eu une mauvaise récolte de pommes de terre, il y a eu une rupture d'approvisionnement sur les chips et il y a eu une véritable flambée des prix des chips au Japon et ça a fait un véritable scandale politique. Le Premier ministre a failli y passer. Il vient de perdre les élections à Tokyo. Et dans la campagne qui s'est déroulée sur les élections de Tokyo, le camp qui a gagné a dénoncé l'incapacité du gouvernement japonais à nourrir la population japonaise. Or, ce n'était pas parce qu'il n'y a pas assez de pommes de terre au niveau mondial. On n'était pas dans la situation de l'Irlande de 1847. Des pommes de terre, il y en a partout. C'était règles protectionnistes qui empêchent le Japon d'importer de la pomme de terre. Le deuxième exemple, vous prenez les États-Unis. Donald Trump est en train de revenir en arrière, et on parle d'écologie, sur ses engagements énergétiques. Pour protéger dans un pays qui commence à être à l'équilibre énergétique, pour garantir la certitude que les États-Unis ne seront plus dépendants sur le plan énergétique du monde extérieur, il a dit qu'il allait réouvrir les mines de charbon. C'est-à-dire que on peut défendre l'écologie et le protectionnisme, mais la traduction immédiate quand même du protectionnisme, c'est de maintenir, par absence de concurrence, des activités qui sont sur le plan technologique en retard et donc qui sont, elles, par nature, assez polluantes. Et donc, je pense qu'on a toujours intérêt à avoir la concurrence nationale ou internationale pour inciter les gens à améliorer un processus de production dans un cadre que l'on peut définir sur le plan réglementaire, dans un cadre où on peut avoir davantage d'exigences en termes de protection de l'environnement. Mais si on ne met pas la pression concurrentielle, les entreprises ne feront pas l'effort nécessaire pour dégager ces bénéfices environnementaux.
On arrive au cœur du débat. Mathilde Dupré.
Mais encore une fois, là, on est dans un débat assez abstrait sur libre-échange, protectionnisme. En réalité,
là, c'est assez concret ce que vient de dire Jean-Marc Daniel.
Oui,
c'est-à-dire
par
exemple, le protectionnisme de Donald Trump l'amène à rouvrir les mines de charbon. Voilà,
mais,
ça, voilà un exemple
concret.
Mais
parce que c'est un protectionnisme qui ne fait que favoriser l'intérieur par rapport à l'extérieur. On peut imaginer des règles de protection qui seraient définies de façon à répondre à certains enjeux, par exemple environnementaux, pour faciliter les échanges de biens qui servent la transition énergétique, la sortie des fossiles et le passage vers des énergies renouvelables et diffuser des technologies, etc. Et par contre, entraver effectivement les échanges en matière d'industrie fossile ou d'autres industries qui sont très nocives pour l'environnement. On voit aujourd'hui que l'allongement des chaînes de production à l'échelle internationale, ça a généré quoi ? Ça a généré le fait que tous les efforts qu'on a fait dans l'Union européenne entre 1990 et 2012 pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, en fait, ils ont été annulés par des importations de gaz à effet de serre qu'on fait de biens pour notre consommation. C'est-à-dire que du coup, nos industries et toutes les entreprises qui commercialisent des produits sur le marché européen ont reporté les segments les plus polluants de leurs activités dans des paradis carbone, dans des pays qui ne régulent pas sur ces questions-là. Et donc là, on voit bien qu'il faut changer les règles du commerce si on veut que tout le monde prenne des engagements sérieux en matière climatique, par exemple.
Corinne Vatkar, je rappelle que vous êtes analyste en commerce international à l'Institut Friedland. L'Institut Friedland, c'est le think tank de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Donc, vous connaissez bien les entreprises, les entrepreneurs. Est-ce que, du côté des entreprises, justement, le libre-échange, ce serait l'absence de réglementation ?
Pas du tout. Les entreprises ne sont pas opposées à l'idée de règles. Bien au contraire, ils demandent des règles qui permettent finalement d'égaliser les conditions de concurrence entre les différents pays membres. Alors bien souvent, voilà, on nomme la Chine pour le fait qu'elle ne respecte pas certaines règles ou qu'elle soit protectionniste et du coup ou qu'elle ne pratique pas la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. Et donc en fait, les entreprises sont plutôt demandeurs de ça. Et pour ce faire, ils prônent en revanche une politique de dialogue pour certains, pas forcément une politique de protection. Un Buy European Act,
donc
des
ça, c'est
exigences.
La proposition notamment d'Emmanuel Macron de favoriser, lorsqu'il y a des marchés publics, par exemple, en Europe, de favoriser l'accord de ces marchés publics avec les sociétés européennes.
Il y a plusieurs pays qui sont tentés par ce genre de dispositif. On a parlé à l'instant, que essayer de voilà, de relocaliser de la production dans un pays ou bien faire appel aux productions locales alors qu'elles ne sont plus tout à fait compétitives, c'est contre-productif. Donc voilà, ce type de dispositif n'est pas forcément le plus adapté. En tout cas, il n'y a pas forcément une réponse aussi dans la seule politique commerciale. Aujourd'hui, on a des inégalités qui ne résultent pas seulement de libre-échange, elles résultent aussi, voilà, on l'a dit, de l'évolution technologique, et puis de la numérisation de l'économie qui fait qu'on a une concentration de la valeur entre certains acteurs, pour ne pas les nommer des plateformes numériques. Et aujourd'hui, les outils qu'on appelle les outils de politique commerciale ne sont pas forcément les plus adaptés à ça. Ça peut être des politiques de concurrence, des politiques fiscales, pour essayer de rééquilibrer les choses.
Mathilde Dupré. Vous vouliez réagir, vous m'avez fait signe.
Je voulais réagir sur le fait que malheureusement, il y a quand même souvent un alignement vers le bas. Je mentionnais tout à l'heure les règles que les Américains auraient bien voulu voir réduire au sein de l'Union européenne ou en France. Quand on regarde quelles étaient les demandes des entreprises françaises dans les négociations avec les États-Unis, par exemple, le secteur bancaire et assurantiel étaient, eux, très intéressés pour essayer de réduire la portée des règles de stabilité financière qui avait été renforcée aux États-Unis après la crise financière. Et donc là, on voit bien que c'est un phénomène qui marche dans les deux sens, mais qui malheureusement nous pousse souvent vers le bas.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
France Culture du grain à moudre d'été, il est 18h45 et on se demande, peut-on sauver le libre-échange avec trois invités, Mathilde Dupré qui est en charge du programme commerce dans le think tank Institut Veblen, Jean-Marc Daniel qui est économiste et Corinne Vatkar qui est analyste en commerce international à l'Institut Friedland. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans la conversation, si vous le voulez bien, les uns et les autres, et notamment, puisqu'on s'interroge sur le libre-échange et sur la façon dont il est perçu, il y a une composante qu'on n'a pas encore évoquée, c'est l'opinion publique et notamment l'opposition qui a été suscitée par les derniers accords comme le TAFTA, le CETA, et on peut s'interroger aujourd'hui sur, comme l'appelait Mathilde Dupré, la fuite en avant de l'Union européenne qui continue de mener ses négociations sans forcément se soucier de l'opinion publique. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Daniel?
Je crois que l'opinion publique française effectivement est assez hostile, en tout cas réservée sur le libre-échange, mais elle est assez unique en son genre. Quand on a regardé le vote au Parlement européen sur le CETA, seuls les représentants français ont voté contre, c'est-à-dire il y a une forme d'unanimité. Quand vous allez en Europe de l'Est, les gens qui sont en Europe de l'Est, même s'ils sont assez nationalistes dans leurs rapports, notamment avec Bruxelles, sur le libre-échange, ils n'ont aucun doute sur la nécessité, effectivement, d'assurer la libre circulation des marchandises, d'assurer davantage de liberté dans le commerce et de
Mais encore une fois, ça ne se limite plus à ça. C'est qu'on n'est plus seulement dans le fait d'accorder la libre circulation des marchands.
Et si vous, pour reprendre le cas des banquiers de la banque et des États-Unis, vous avez tout. Alors, l'opinion publique n'a pas suivi ça de très près, forcément, mais une des demandes des banquiers, c'est le fait que si on ne définit pas des règles, si on ne trouve pas un accord avec les États-Unis sur les règles d'échange, on va être soumis à un racket protectionniste de la justice américaine qui a déjà commencé à s'abattre sur les banques européennes. La BNP a déjà été obligée de payer une amende colossale pour des opérations au Soudan, dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Vous avez une espèce d'épée de Damoclès.
Bruxelles a riposté. On vient de donner une amende record à Google.
Voilà. Et donc, Bruxelles est en train de riposter. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que la justice américaine réagit sur des règles qui sont des règles d'utilisation du dollar. C'est-à-dire, le dollar devient une espèce de capacité des Américains à se mêler de la vie quotidienne de la plupart des économies mondiales. Et l'Union européenne, elle, réagit en termes de concurrence. Elle s'abat sur les avantages fiscaux qui ont été consentis à Apple en Irlande en disant « Vous faites la fiscalité que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de favoriser par l'intermédiaire de la fiscalité telle ou telle entreprise. » Et donc, il y a quand même une façon d'appréhender la réalité en Europe qui est une façon qui est favorable à la logique de la concurrence. Cette façon, je pense qu'elle est assez portée par beaucoup d'opinions publiques, même si en France, on ne se rend pas compte de ça. Et dans la traduction politique, qui est l'expression naturelle de ces opinions publiques, effectivement, on est plutôt en Europe favorable au libre-échange.
Corinne Vatkar.
Sur cette question, j'ai tendance à dire que finalement l'avenir a peut-être changé un petit peu la donne. La mondialisation, elle a tendance à changer. Elle devient digitale. Le commerce international est porté par des flux de services, par des flux de données, par des flux de biens digitalisés. Par exemple, voilà, les films qu'on peut télécharger, les prestations de services qu'on peut avoir à l'autre bout du monde. Tout ça a tendance à changer la donne, à déplacer le débat, et on voit notamment ce type de produits qui peuvent s'exempter de barrières, d'effets de barrières, et du coup ça déplace un peu les problématiques sur dans d'autres domaines.
Mathilde Dupré.
Non, je voulais réagir sur les opinions publiques, parce que justement, ce qui a été quand même très surprenant avec les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est que c'est pas les Français qui ont réagi, c'est les Allemands. Il y a eu 300 000 personnes, si je me souviens bien, dans la rue à Berlin pour protester contre cet accord de commerce et d'investissement. En Autriche, il y a aussi eu des pétitions qui ont recueilli un nombre de signatures incroyables en proportion de la population. Donc il y a des pays dans lesquels il n'y avait pas du tout cette même culture peut-être ou approche vis-à-vis de ces sujets-là de mondialisation, etc., qui ont complètement découvert le contenu de ces accords commerciaux, qui déjà, les opinions publiques, elles ont quand même été très échaudées par le fait que ce sont des négociations qui sont complètement opaques et sur lesquelles il y a très peu d'informations qui filtrent. Et malheureusement, on a l'impression que la Commission européenne n'apprend rien, puisqu'elle a fait des efforts pour publier plus d'informations sur les négociations avec les États-Unis, mais dans le même temps, toutes les négociations avec le Japon sont restées complètement secrètes, et même le mandat de négociation qu'elle a reçu en 2012 pour cette négociation avec le Japon n'est toujours pas publié. Donc on voit que là, il y a encore d'énormes efforts à faire, et dans l'opinion publique allemande, par exemple, un des sujets qui a beaucoup ému les Allemands, c'est cette question des tribunaux d'arbitrage, de ces mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, qui sont prévus dans ce type d'accord, qui en fait offrent des droits qu'on peut considérer comme exorbitant à des investisseurs étrangers et qui leur donne accès à des juridictions d'exception, c'est plus la justice des différents pays, et qui leur permettent de poursuivre des États quand ces États-là prennent des mesures qui affectent leurs bénéfices réels ou escomptés. Et l'Allemagne, elle s'est fait poursuivre déjà plusieurs fois, notamment suite à sa décision de retrait du nucléaire ou sur des normes qu'elle avait posées à une centrale énergétique. Et donc là, les Allemands ont découvert avec stupeur ce que pouvait provoquer ce type de disposition.
Corinne Vodkar.
Oui, sur la transparence, je ne suis pas sûre que finalement ce soit ça qui soit la vraie problématique. La négociation pour l'accord transatlantique a abouti à une très grande transparence, jamais dans l'histoire des négociations commerciales qu'a menée l'Union européenne. On avait été aussi transparent. Et pour autant, l'opposition à ces accords n'a pas diminué. Les populismes ont continué. Donc, est-ce que c'est vraiment ça le remède pour sauver, entre guillemets, le libre-échange? J'ai plutôt tendance à dire que il faut peut-être déjà faire un effort de pédagogie, d'explication. On a une recherche économique qui est extraordinaire sur ces questions-là, qu'il s'agisse du commerce traditionnel comme du commerce sous la forme de chaînes de valeur mondiale.
Justement, quand il s'agit de convaincre les opinions publiques, j'ai cherché un petit peu et les effets concrets, par exemple sur l'augmentation du produit intérieur brut de ces accords de libre-échange, ils semblent infinitésimales. C'est moins de 1%. C'est très difficile à évaluer ou c'est pas grand-chose. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé en me renseignant un petit peu. Est-ce qu'on arrive à mesurer véritablement l'effet économique ?
Non, c'est très difficile à mesurer. Et ce qu'on mesure, c'est qu'objectivement, les accords de libre-échange, les mesures de libre-échange ont comme conséquence de faire baisser les prix. Concrètement, là aussi, quand l'administration Bush a cherché à augmenter le prix de l'acier directement pour favoriser la sidérurgie américaine, dans la phase d'après, c'est l'industrie automobile américaine qui a été en difficulté. Et dans la crise de 2008-2009, la plupart des dirigeants de l'industrie automobile américaine, on dit si on aborde la phase de récession en situation d'amoindrissement, puisque les trois principales entreprises automobiles américaines ont été au bord de la faillite, elles ont été sauvées in extremis par soit l'État, soit des interventions extérieures, si on aborde cette situation en situation d'infériorité par rapport à l'automobile européenne ou japonaise, c'est parce que les mesures protectionnistes qui avaient été prises sur l'acier ont augmenté nos coûts. Donc c'est très difficile lorsqu'on prend une mesure protectionniste de dire voilà quel va être l'impact, mais il y a quand même des séquences qui s'enchaînent et qui ont comme conséquence de baisser le pouvoir d'achat. Ce qu'il y a d'intéressant, si vous voulez, on pourra en revenir aux opinions publiques, c'est que les opinions publiques, quand elles vont dans les magasins, elles choisissent les prix, les meilleurs marchés, les produits les meilleurs marchés. Et les gens qui parlent au nom des opinions publiques, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont des gens, il y a toujours eu une vague de protestation dans toute société. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est pour en revenir à Karl Marx, c'est que Marx, qui était l'extrême gauche, disait, il y a une chose sur laquelle il faut surtout pas aller, c'est la défense du protectionnisme. Or, les héritiers putatifs de l'extrême gauche marxiste, maintenant, sont devenus protectionnistes. Et ça, c'est une évolution qui est une évolution intellectuelle intéressante. Ils ne sont pas représentatifs des opinions publiques, mais ils expriment une révolte, et cette révolte, maintenant, passe par le canal protectionniste. Une des questions qui se posent pour les chercheurs, pour les économistes, pour les producteurs d'idées, c'est pourquoi la révolte qui, encore une fois, était jugée par Marx absurde si elle était protectionniste, est devenue légitime aujourd'hui si elle est protectionniste.
Pour terminer, dans les quelques minutes qui nous restent, essayer d'être complet un petit peu sur ce sujet du libre-échange et des accords qui sont passés en la matière, on est frappé de voir que désormais, ce sont des accords bilatéraux. L'ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, voit d'ailleurs dans cette importance croissante des accords commerciaux préférentiels le, je cite, « reflet de la mort du multilatéralisme ». Est-ce que vous seriez d'accord avec cet acte de décès, Corinne Vatkar?
Déjà, pour répondre à cette question sur la contradiction éventuelle entre un monde global et des accords bilatéraux, d'abord, il faut rappeler que l'édifice international s'est construit sur des règles multilatérales au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, en 1994, à l'issue du cycle de Earl Grey, on a vu les droits de douane baisser notablement. Et on a vu quand même 128 signataires qui sont aujourd'hui 164. Donc on a d'abord des règles qui sont multilatérales. Et c'est avec l'enlisement un peu des négociations à partir des années 2000, ce qu'on appelle le cycle de Doha, que les accords bilatéraux se sont développés. Ce qu'on appelle, un économiste indien a parlé d'un bol de spaghetti, tellement il y a eu d'accords, il y a eu une implosion de ce type d'accords, et pour différentes raisons. Et ensuite, ce qu'on peut noter, c'est que en fait, ces accords bilatéraux, ils ne sont pas tout à fait interrégionaux. Ils sont le plus souvent signés avec des partenaires de proximité, des pays de proximité géographique. Pourquoi ? Parce que en matière de commerce international, quoi qu'on dise, c'est la géographie qui compte.
Même si là, on parle de l'Union européenne avec le Japon, de l'Union européenne avec la Corée.
Les premiers accords, il faut rappeler que 78% du commerce international est d'abord un commerce régional. Les accords régionaux les plus importants, ce sont les accords entre les pays de l'Union européenne, ce sont les accords entre les Mexicains, les Américains, et les Canadiens, c'est la proximité qui compte. Pour l'instant, voilà. Et pour répondre à la seconde partie de votre question, le multilatéralisme, est-ce qu'il est menacé? Est-ce qu'il peut être sauvé? D'abord, il y a un vrai besoin de compléter les règles du commerce international, les instruments de défense commerciale. Il y a une vraie demande. Et les Chinois aussi sont susceptibles de rejoindre ces discussions. Donc il y a peut-être un consensus qui peut revenir autour du multilatéralisme, parce que le bilatéralisme est quand même le rapport du faible au fort, de manière générale.
Mathilde Dupré, justement sur cette multiplication des accords bilatéraux, quel est votre regard? Il faudrait ajouter un nouvel acteur, vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a maintenant des multinationales qui ont le poids financier de véritables États, les fameux GAFA notamment, Google, Apple, Facebook, Amazon, on les voit émerger dans ces accords bilatéraux. Ils ont plus de poids que si on refaisait un cadre multinational, multilatéral.
Alors, ils pèsent évidemment beaucoup dans ces négociations. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que dans les négociations avec les États-Unis, quelque part, on a redécouvert cette question de la négociation entre le faible et le fort. C'est-à-dire que tant que l'Union européenne négocie avec des pays en développement, c'est plutôt nous qui arrivions à imposer nos règles et ce qu'on voulait chercher à faire suivre aux pays en développement. Là, avec les États-Unis, on s'est pris en pleine figure, en quelque sorte, ce rapport de force. Moi, ce que je voulais dire, c'est que si aujourd'hui, il est important de mettre des règles internationales, des standards en matière sociale, en matière environnementale, mental, de respect des droits humains, etc. Peut-être que c'est pas par les négociations commerciales qu'il faut passer, mais c'est de mettre tous les efforts de la communauté internationale sur des accords dans ces domaines-là, qu'ensuite on peut faire respecter éventuellement via des instruments et des règles de préférence commerciale, si ça permet de les faire respecter.
Un dernier mot, Jean-Marc Daniel.
Oui, un dernier mot. Moi, je ne suis pas pessimiste comme Pascal Lamy. Pascal Lamy, il est pessimiste parce qu'il était directeur de l'OMC et que l'OMC a des difficultés, clairement. C'est-à-dire, mettre d'accord tous les pays de la planète, c'est absolument impossible. Mais il y a des instances intermédiaires. Le G20, dont tout le monde ricanait en disant G20, c'est pas G20, V20, le nombre, c'est G20, V-A-I-N. Le G20, finalement, finit par arriver à dégager quelques éléments, sinon de consensus, du moins d'identification des problèmes. Et c'est déjà pas mal. C'est-à-dire de savoir sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas désaccord. Donc, je serais moins pessimiste que Pascal Lamy.
Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira, puisque le G20 d'Hambourg se déroulera vendredi et samedi prochain. Et bon, on regardera ça de très près. Merci à tous les trois. Mathilde Dupré, Jean-Marc Daniel, Corinne Vatkar d'avoir été nos invités du Grain à Moudre d'été. Ce soir, on mettra toutes les références vous concernant sur notre page du Grain à Moudre d'été. L'émission a été préparée par ce soir, comme d'ailleurs ça va être le cas pendant tout le mois de juillet, par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Monti. À la réalisation, c'était Anne-Laure Chanel. À la prise de son, Clément Daté.